Belle soirée à vous à l'écoute d'Europe 1, il est 22h. Tout de suite le journal, Isabelle Millet.
Bonsoir à tous, voici les titres de votre journal. Il a sorti le grand jeu et ça a payé. Alexis Peintureau, magistral sur le combiné cet après-midi aux Mondiaux en Suède. Le skieur savoyard remporte la médaille d'or. À Aubervilliers, on a retrouvé le fourgon, mais ni le convoyeur, ni l'argent, 3 millions d'euros. A-t-il été braqué ou bien a-t-il pris la fuite? Mystère. La démission ce soir d'Ismaël Emelien, surnommé le couteau suisse de l'Élysée, conseiller spécial d'Emmanuel Macron, dont le nom avait été cité dans l'affaire Benalla. La justice saisie après une série d'inscriptions antisémites en plusieurs endroits ce week-end dans la capitale. Les actes antisémites qui ont augmenté l'an dernier en France de 74%. Il faut que ça cesse, le message des maires de France, 13 samedis consécutifs de villes mortes et de violences, ça suffit. Cette question également, peut-on se passer des auto-écoles pour apprendre à conduire? Internet va-t-il tuer le métier? Les professionnels redoutent le projet de réforme, on les entendra. Et ce projet, on aura l'occasion d'en parler également dans l'interview écho d'Emmanuel Duteil à 22h20 tout à l'heure, puisqu'Emmanuel reçoit le cofondateur d'En Voiture Simone, Édouard Rudolph. En Voiture Simone, c'est une auto-école en ligne qui permet justement de passer l'examen du code sur Internet et de réserver ses cours de conduite. Et puis J-1 avant le choc, 8e de finale de la Ligue des Champions entre le PSG et Manchester United. Demain, à vivre en direct et en intégralité sur Europe 1 dès 20h. Ce sera une belle journée demain du côté du ciel, après dispersion des brouillards et des nuages bas, sauf sur le nord-est où la grisaille restera persistante. Quelques nuages retardataires entre les Hauts-de-France et la région parisienne, mais à partir de mercredi, c'est promis, le soleil mettra tout le monde d'accord. Prévision météo complète d'Elena Morna à la fin de ce journal.
Europe 1.
Il y a des actualités qui font du bien, alors on ne va pas s'en priver. Nous avons ce soir un champion du monde, Alexis Peintureau, sacré sur le combiné aux Mondiaux en Suède. À 27 ans, il devient le premier Français à remporter l'or dans cette discipline, le premier depuis 37 ans, ça se fête.
Oui, beaucoup d'émotions. Ça fait longtemps qu'on parle du combiné. Pour moi, ça fait longtemps que j'y arrive pas. Et donc là, très heureux qu'enfin ça puisse payer et que j'arrive en plus de ça à aller chercher la plus belle des médailles. C'est toujours un moment dans une carrière, un moment spécial, un moment, je dirais, d'accomplissement, entre guillemets, parce que c'est un objectif. Pour moi, c'est un objectif et maintenant, celui-là, il est fait. Et alors après, maintenant, il me reste de belles épreuves, il faudra que je récupère parce que je me suis quand même fait mal au genou sur cette descente et rien de trop grave, ça m'a pas empêché de faire un bon slalom, mais j'ai une belle contusion osseuse au genou, donc il devrait rien avoir de trop grave. J'ai eu cette première médaille et maintenant je sais pas si ça va me libérer, mais ce qui est sûr c'est que celle-là je l'ai déjà au moins autour du cou. Après, il faudra bien sûr s'employer sur le géant, essayer de bien se reposer parce que la journée était très longue aujourd'hui et ça va me prendre aussi beaucoup d'énergie.
Et voilà Alexis Peintureau, notre nouveau champion du monde avec Romain Libardi. 3 millions d'euros, 3 millions sont dans la nature depuis ce matin, depuis la mystérieuse disparition d'un convoyeur de fonds à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. Le fourgon a été retrouvé, mais le chauffeur et l'argent se sont volatilisés. Et pour l'instant, Pierre de Cossette, on ne sait pas vraiment ce qu'il s'est passé.
Écoutez, ce qu'on sait pour l'instant tient au récit dressé par ses deux collègues qui étaient avec lui dans le fourgon blindé de la société Loomis ce matin. Vers 6h, ces deux convoyeurs sortent du camion dans une avenue d'Aubervilliers. Ils doivent aller récupérer de l'argent dans une agence Western Union. Le fourgon reste moteur allumé avec leurs collègues au volant. Ça, c'est normal, c'est la procédure, question de sécurité. Ce qui est moins habituel, c'est que les deux convoyeurs ressortent de l'agence et constatent, interloqué, que le fourgon siglé Loomis a disparu. Il donne l'alerte et un peu plus tard, la police le retrouve à 300 mètres de là seulement, dans une petite rue parallèle. Les portes sont ouvertes, il reste de l'argent à l'intérieur, mais il en manque aussi. Et le conducteur s'est volatilisé. La brigade de répression du banditisme, la BRB de la PJ parisienne, a fait les comptes. Il manque plus de 3 millions d'euros. Les enquêteurs recherchent aussi celui qu'il faut bien désigner comme le suspect, convoyeur de 28 ans, même si police et justice restent prudents. C'est peut-être une musulin, me disait un policier, mais rien ne dit qu'il n'a pas été discrètement braqué, voire séquestré, ou qu'il n'a pas fait ça sur ordre, avec des pressions sur ses proches.
Les précisions de Pierre de Cossette, du service police-justice d'Europe 1. On a appris ce soir la démission d'Ismaël Emelien, conseiller spécial d'Emmanuel Macron. Ismaël Emelien, dont le nom avait été cité dans l'affaire Benalla, soupçonné par les enquêteurs d'être celui qui aurait réceptionné les fameux CD contenant les images des violences du 1er mai. Officiellement, il dit quitter son poste en raison de la prochaine parution d'un livre qu'il co-signe sur le progressisme, le chef de l'État ayant interdit interdit apparemment à ses conseillers de publier pendant qu'ils sont en poste à l'Élysée. Alors que Mediapart a fait de nouvelles révélations aujourd'hui, justement à propos d'Alexandre Benalla et ses liens avec des oligarques russes, le site d'information en ligne révèle les coulisses de contrats supervisés de très près par l'ancien conseiller d'Emmanuel Macron et il enfonce le clou. Il assure qu'Alexandre Benalla a négocié un contrat de sécurité avec un deuxième oligarque russe pour près d'un million d'euros et que les premiers versements lui ont été versés sur un compte au Maroc. Les actes antisémites ont bondi de 74% en France l'an dernier. C'est ce qu'annonce ce soir le ministre de l'Intérieur. Après plusieurs actes anti-juifs commis récemment à Paris et dans l'Essonne, l'antisémitisme se répand comme un poison, déclare Christophe Castaner, qui s'est rendu à Sainte-Geneviève-des-Bois où un arbre planté à la mémoire d'Ilan Halimi, ce jeune juif tué en 2006, a été vandalisé. L'antisémitisme qui s'est aussi invité ce week-end sur les murs de la capitale, des inscriptions, des tags, le procureur, le préfet de police ont été saisis. Le mot « Juden » notamment, qui signifie « juif » en allemand, qui a été apposé sur la vitrine du restaurant Bagelstein. Les gérants ont porté plainte. Il y a aussi ce « Macron pute des juifs » en anglais sur une porte de garage du 1er arrondissement. Ou encore ces portraits de Simone Veil qui ont été recouverts de croix gammées dans le 13e arrondissement. Frédéric Potier est le délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT.
Quand on dit que le président de la République est aux mains des juifs ou subit une influence des juifs, eh bien c'est tout simplement quelque chose qui renvoie à des vieilles croyances antisémites, donc il faut le dire. Et il y a aussi un portrait de Simone Veil dans le 13e arrondissement qui a été vandalisé. Tout cela montre bien que l'extrême droite ou d'autres groupuscules cherchent, par ce prétexte du mouvement des Gilets jaunes, à véhiculer des idées de haine. Donc il ne faut pas les laisser faire et puis surtout il ne faut pas rester indifférent. On ne peut pas, on ne doit pas rester indifférent à ces messages antisémites, à ces messages de haine qui appellent à la violence des autres, au rejet de l'autre. Donc tout cela est tout simplement inacceptable.
Des propos recueillis pour Europe 1 par Marguerite Lefebvre. Et notez que demain matin, dans la matinale d'Europe 1, Nico Saliagas recevra Delphine Horviller, femme rabbin qui réagira à la multiplication de ces actes antisémites en hausse de 74% l'an dernier.
Le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Merci d'écouter Europe 1, il est 22h08, c'est la suite de votre journal. Ils s'inquiètent pour leur profession et redoutent qu'à l'avenir, on n'ait plus besoin d'auto-école pour apprendre à conduire. Plusieurs milliers de manifestants aujourd'hui à Paris et dans plusieurs villes, des patrons, des moniteurs d'auto-école inquiets face à la future réforme qui verra se multiplier les plateformes en ligne, moins chères au détriment des auto-écoles traditionnelles. Écoutez Patrick Mirous, il est président délégué général de l'Union nationale des enseignants de la conduite qui regroupe un millier d'auto-écoles.
Aujourd'hui, on est dans un système qui est déloyal. Les plateformes en ligne ont le droit d'utiliser des auto-entrepreneurs. Elles ne payent pas 70% de charges et ils ne payent pas de TVA. Ça représente 1000 euros sur le coût d'une formation au permis. Et moi, je dis au final, pour les utilisateurs, aujourd'hui, on est sur le même prix. Il y a des auto-écoles qui ferment, il y a des baisses de marché et il y a une baisse de qualité. Parce qu'aujourd'hui, les élèves qui utilisent ces plateformes réussissent moins au permis de conduire. Donc ça veut dire qu'ils se reforment, il faut qu'ils représentent, ça leur coûte de l'argent. Mais tout ça, on ne le dit pas. Moi aujourd'hui, et nous aujourd'hui, les écoles de conduite de proximité, on est venu pour le dire. Et pour dire qu'aujourd'hui, le permis sur Internet, c'est pas moins cher, c'est faux. Le permis low cost n'existe pas.
Patrick Mirous, président délégué général de l'UNIDEC qui regroupe un millier d'auto-écoles. Il était au micro Europe 1 de Claudia Bertram. Et je vous rappelle qu'Emmanuel Dutheil reçoit d'ici un quart d'heure maintenant le cofondateur d'En Voiture Simone, Édouard Rudolph, l'un de ces nouveaux acteurs du secteur contre qui manifestaient aujourd'hui les patrons d'auto-écoles. La parole aux agriculteurs dans le grand débat national. Emmanuel Macron a reçu aujourd'hui leurs principaux syndicats à l'Élysée. Les maires des grandes villes de France, eux, demandent une réunion d'urgence au gouvernement suite aux préjudices subis par les habitants et par les commerçants depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. 13 samedis pendant lesquels ils ont dû fermer leurs magasins et pour certains subir des dégradations à répétition. Parmi les communes concernées, il y a notamment en Bordeaux où on a vu pas mal de scènes de violence avec des commerçants à bout, soutenus par Alain Juppé.
Ces manifestations deviennent de plus en plus intolérables parce qu'elles génèrent systématiquement des comportements scandaleux, avec des bris de vitrines, du saccage de mobilier urbain, des graffitis injurieux, bref, toutes sortes de déprédations et de violences physiques qui deviennent inacceptables. Les conséquences, elles sont désastreuses. Pour le budget municipal, c'est-à-dire pour les Bordelaises et les Bordelais, plus d'un million d'euros aujourd'hui. Il faut réparer les boîtiers du tramway qui sont brûlés parce qu'il y a des barricades. Il faut refaire les chaussées qu'on venait de rénover, réparer le mobilier urbain. Il faut, et c'est bien normal, rémunérer nos agents pour nettoyer les graffitis, collecter les ordures qui sont accumulées un petit peu partout et pour rendre la ville à peu près acceptable dès le dimanche.
Alain Juppé au micro du correspondant d'Europe 1 à Bordeaux, Stéphane Place. Après les LBD, les lanceurs de balles de défense, polémique cette fois sur l'utilisation des grenades lacrymogènes instantanées. Ce week-end à Paris, un manifestant a été grièvement blessé à la main devant l'Assemblée nationale. La Gli F4 est composée de gaz lacrymogène mais aussi d'explosifs. La France est le seul pays européen à l'utiliser et un collectif d'avocats réclame aujourd'hui son retrait. Accusé de harcèlement en ligne ces dernières années, 3 journalistes de Libération et des Inroc mis à pied à titre conservatoire après la révélation de cette affaire. Canulars, insultes, photomontages. Plusieurs victimes ont témoigné sur Twitter ce week-end.
Isabelle Millet sur Europe 1.
Il est 22h11 et on a fêté aujourd'hui, figurez-vous, un anniversaire pas comme les autres, celui de Lucille Rondeau, 115 ans. Elle est la doyenne des Français. Elle s'appelle Sœur André depuis qu'elle est religieuse. Et Nathalie Chevance a rencontré aujourd'hui une doyenne qui a encore la pêche.
Oh, ça me fait beaucoup de joie parce que je suis entourée de beaucoup de tendresse et d'affection. Les jours de grandes fêtes, on a l'apéritif. On ne m'en prive pas. Gourmande, j'ai appris à manger du chocolat. Alors là, c'est le régal. Mais je me fâche un peu avec le bon Dieu. Parce que pour arriver à 5-15 ans, ne vous faites pas d'illusions. Il y a des ennuis. Et moi, je ne les accepte pas. Je ne peux pas m'habiller, je ne peux pas me coucher, je ne peux pas me lever. Ce n'est pas drôle quand on a eu une vie très active. Et là, maintenant, c'est moi qu'on dort l'autre. C'est trop.
Ma sœur, quel est le secret de la longévité ?
Rien du tout, parce que je ne me suis jamais ménagée. J'ai travaillé avec 40 de fièvre. Le travail, c'est la santé.
Voilà, Sœur André, 115 ans, doyenne des Français au micro européen de Nathalie Chevance. Et figurez-vous qu'elle trouve que la plus belle invention qu'elle ait connue dans sa vie, c'est la radio. Ça méritait bien qu'on souffle ses bougies avec elle. Demain, à cette heure-ci, les fans du PSG seront dans leurs petits souliers, car demain, c'est le grand soir en Ligue des Champions face à Manchester United. Les huitièmes de finale des Parisiens, dont l'infirmerie s'est encore remplie ce week-end, puisqu'après Neymar, c'est Cavani et Meunier qui se sont blessés. En tout cas, ceux qui sont sur pied seront à 100%, comme le confirme Julian Draxler, le milieu de terrain parisien.
J'ai envoyé un message à Cavani juste après le match. À la maison au parc, et ouais, on est déçu que lui il va manquer aussi Ney et Meunier parce que ce sont des joueurs importants pour nous. Et, mais bon, il faut pas parler de le joueur blessé. On va compter sur nous. Tout le monde qui est là et qui est prêt pour demain va essayer de faire un gros match. Et c'est pour ça qu'on est ici et on va tout donner, ça c'est clair.
Le joueur du PSG, Julian Draxler, au micro Europe 1 de Julien Froment. Et ce match de Ligue des Champions, PSG, Manchester United, il est à vivre, évidemment, demain sur Europe 1, en direct et en intégralité, dès 20h, avec Lionel Rousseau qui sera accompagné des envoyés spéciaux du service des sports, mais aussi de Guy Roux et de Laurent Fournier, nos consultants. Et on jette un œil tout de suite sur la météo avec vous, Elena Morna. Il paraît, Elena, que le printemps n'est plus très loin.
Oui Isabelle, petite impression de début de printemps en fin de semaine avec un soleil de plus en plus présent et des températures en hausse. En attendant, demain, ce sera encore un peu l'hiver hein, entre les régions du nord de la Seine, le nord-est, massif central et sud-ouest, avec des brouillards ou des nuages bas assez denses, un peu moins compacts sur le nord-ouest. Absents, ces brouillards et nuages bas entre les Pyrénées, la Méditerranée et les reliefs de l'Est. L'après-midi, le ciel va franchement s'éclaircir sur une moitié ouest et sud. Alors on aura encore quelques poches de grisaille, c'est vrai, résistantes sur le nord-est jusqu'aux Hauts-de-France et régions parisiennes. Des brouillards indélogeables entre le plateau lorrain et le Val-de-Saône. Mais pas d'inquiétude, hein, ces zones grises seront les dernières de la semaine. Après, tout le monde profitera d'un ciel lumineux. Alors concernant les températures, là aussi, on restera dans une atmosphère hivernale demain matin, surtout avec moins 2 à 4 degrés sur une grande partie du pays. Bien sûr, c'est toujours plus doux sur le littoral. Et puis l'après-midi, on aura 4 degrés à Langres, 6 à Belfort et Saint-Étienne, 7 à Strasbourg comme à Auxerre, 9 à Lille, à Paris et Lyon. Et puis ça va monter là où le soleil s'impose, à Brest par exemple ou Montauban avec 11 degrés, 12 à Nantes, Bordeaux et Avignon, 13 à Biarritz, 14 pour Marseille, jusqu'à 17 à Perpignan.
La météo signée Elena Morna sur Europe 1.
Europe 1.
Et dans un instant, vous saurez tout sur la bourse avec Didier Hameau de boursier.com juste avant l'invité écho d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir le cofondateur d'En Voiture Simone, Édouard Rudolph. A tout de suite sur Europe 1.
22h, 22h30, le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Et à 22h16 sur Europe 1, on s'intéresse bien sûr à la bourse avec vous Didier Hamon, rédacteur en chef de boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Isabelle.
Et Wall Street qui commence prudemment la semaine proche de l'équilibre.
Wall Street hésite, oui, avant une nouvelle semaine de négociations commerciales entre Américains et Chinois. Ça donne pas mal d'hésitation sur le Dow Jones qui recule légèrement de 0,2%, 25 053 points. Le Nasdaq prend quand même 0,13%, 7 308 points. Les valeurs de technologie marquent quand même une pause à l'image d'Apple qui recule de 0,6%, 169,43 $, alors que le groupe Apple confirme avoir perdu d'importantes parts de marché en Chine. Facebook recule de 0,9%. Il y a quand même une valeur qui s'en tire. C'est Tesla qui remonte de 2,3%. Tesla, le fabricant de voitures électriques, à 312,84 $, aidé par des avis d'analystes plus favorables, comme celui de Canaccord, qui vise un cours de 450 $ sur Tesla. Le pétrole retombe un petit peu, moins 0,6%, 52,50 $ le baril. On est plutôt stable sur l'euro, même s'il y a une pression toujours sur la monnaie unique à 1,1275 face au dollar.
La bourse de Paris, elle, a repris 1%. Le CAC 40 a repassé la barre des 5000 points.
Un petit peu plus d'un pour cent. 1,06%. Effectivement, on est au-dessus des 5000, 5014, aidé par les prévisions de la Banque de France qui font part d'une croissance attendue à plus 0,4% au premier trimestre 2019, après plus 0,3% au dernier trimestre 2018. C'est un petit peu mieux que prévu. Quelques gros dossiers sont remontés. Atos, plus 2,9%. Publicis, plus 3%. Technip, plus 2,9%. Et STM, plus 2,7%. Et puis Airbus gagne 2%. Là, c'est Goldman Sachs, l'analyste, qui conseille le dossier à l'achat en visant un cours de 142 € sur Airbus.
Et alors, il y a une exception, Didier, c'est le titre Coil qui chute de 35%.
Grosse exception, oui. Coil, spécialiste de l'aluminium, qui plonge littéralement de 34,9% exactement, 7,58 €, après l'annonce d'un chiffre d'affaires très décevant en repli de 16% en 2018 à 24,9 millions d'euros, et ça donne donc une chute assez vertigineuse de quasiment 35%. Ailleurs, sur les autres places financières, le DAX à Francfort regagne 1%, 0,6% de mieux à Bruxelles, 0,9% à Madrid, plus 0,8% à Londres. Le CAC 40 gagne plus d'1%, donc 1,06%, 5014 points.
Eh bien merci pour ce tour d'horizon, Didier Hamon de boursier.com. Et à 22h19, il est temps de retrouver l'interview écho d'Emmanuel Duteil. Emmanuel, vous recevez ce soir le cofondateur d'En Voiture Simone.
Bonsoir Edouard Rudolph.
Bonsoir à toutes et à tous.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le cofondateur d'En Voiture Simone. Alors En Voiture Simone, ça fait partie de ces nouveaux opérateurs sur ce marché des auto-écoles. Si on a eu envie de vous inviter, on en parlait dans le journal il y a un instant, c'est que bien évidemment aujourd'hui, les professionnels des auto-écoles manifestaient contre vous, en partie contre les nouveaux acteurs et contre la réforme que le gouvernement pourrait avoir envie de faire passer pour continuer de faciliter et de libéraliser un petit peu ce marché du permis de conduire. Déjà, pour que l'on comprenne très bien ce que vous faites, parce qu'on dit que vous ubérisez ce secteur des auto-écoles, vous n'avez pas de moniteur à vous, vous n'avez pas de voiture à vous, vous n'avez pas de locaux à vous, on fait tout à la maison et on choisit sur une plateforme son moniteur. C'est ça l'idée d'En Voiture Simone ?
Alors, En Voiture Simone, c'est donc une auto-école en ligne. L'élève, en fait, s'inscrit directement sur envoituresimone.com et ensuite est directement, en fait, inscrit en préfecture. Pour le code de la route, c'est très simple. C'est toujours sur envoituresimone.com. Il révise son code de la route en ligne sur son smartphone, sa tablette, son ordinateur, d'où il veut et quand il le veut. Et ensuite, pour les heures de conduite, eh bien, c'est tout aussi bien parce qu'il a accès à un réseau d'enseignants qui est sérieux et pédagogue. Pourquoi ? Parce que ce réseau d'enseignants, déjà, est bien mieux rémunéré qu'en auto-école traditionnelle. Donc, nous, ça nous permet d'avoir...
J'ai vu que vous disiez que vous voulez payer 40% plus cher, c'est vrai ça ?
40% plus cher, et ça, après toutes les charges.
Net, c'est
après,
ça, 40% net de plus pour eux.
Voilà, exactement. Donc, c'est assez significatif. Ça nous permet aujourd'hui d'avoir un afflux significatif d'enseignants de la conduite. Donc, pour nous...
Et ce sont des gens qui ont exactement la même formation que les moniteurs d'auto-école que l'on a tous pu connaître quand on a passé notre permis
tout à
de conduire.
Fait. C'est très bien de le rappeler. Ils sont tous diplômés d'État, qu'ils soient en auto-école traditionnelle ou en auto-école en ligne. Donc la formation à la fin et identique, voire mieux. Et chez En Voiture Simone, c'est mieux pour plein de raisons, et notamment ce système d'évaluation qui permet de pousser que des gens qui sont sérieux et pédagogues.
Le but principal pour ceux qui utilisent des plateformes comme vous, hein, vous n'êtes pas les seuls, on peut citer Ornicar qui est le leader du marché, c'est que vous proposez des tarifs beaucoup moins élevés. On estime qu'un permis de conduire coûte en moyenne 1 800 €. Vous êtes aux alentours de 800 €.
Alors nous, on est à 749 €. Vous avez donc le pack permis avec ça. Et donc tout est compris, il n'y a pas de surprise.
Il n'y a pas de surprise, mais en revanche, on est autonome, puisqu'on est autonome dans la façon de prendre ses cours. On n'a pas, là encore, hein, tout ce qu'on a pu connaître, la secrétaire qui nous appelle pour dire bah tiens, j'ai une place à 7 h, j'ai une place à 8 h. Là, on se débrouille tout seul, et y compris pour ses inscriptions au permis de conduire derrière.
On a un super support en fait qui vous répond dans la journée. Pareil en fait aussi sur le code de la route, sur une question où vous avez un doute, vous avez la possibilité d'interroger nos enseignants.
Si c'est moins cher, c'est parce que vous n'avez pas de locaux, parce qu'on est quand même plus autonome, parce qu'on réserve tout seul ses heures de voiture, ce qui peut être vu comme un avantage par certains, mais malgré tout, vous déléguez une partie du travail à vos futurs conducteurs.
C'est surtout les coûts de structure qu'on limite. Maintenant, au niveau du suivi pédagogique, il est là, et on pense même qu'il est mieux en fait qu'en auto-école traditionnelle, parce que tout est tracé. On a les statistiques en fait lorsque vous vous connectez sur la plateforme, quand vous vous connectez pas aussi, quand ça fait un certain temps que vous n'êtes pas connecté, on vient vous rappeler, voilà. Et sur le code de la route, c'est la même chose. On sait où vous êtes bon, où vous n'êtes pas bon. On vous recommande justement d'aller réviser telle ou telle thématique en fonction de vous. Donc c'est vraiment un apprentissage personnalisé.
Alors vous êtes lancé en 2015 parce que déjà quand Emmanuel Macron était ministre de l'économie, il avait ouvert la voie à des évolutions. Vous avez été attaqué en justice notamment par les auto-écoles parce que vous veniez casser leur marché. Aujourd'hui, ce que veut le gouvernement, c'est une fois que ça s'est déjà entré en vigueur, aller un petit peu plus loin et libéraliser encore un petit peu plus le secteur. Et ça énerve totalement les auto-écoles parce que finalement, ça pourrait permettre à différents acteurs comme vous d'arriver sur le marché. Est-ce que vous comprenez leur colère? Parce que finalement, ils sont un peu dans la même situation que les taxis quand les VTC sont arrivés. C'est-à-dire, eux, ils payent beaucoup de charges, ils payent leurs locaux, ils payent tout. Et vous arrivez à côté, vous leur piquez le marché?
Alors, moi, je pense qu'il ne faut pas faire d'amalgame entre les auto-écoles en ligne et, par exemple, les VTC. On ne vient pas rajouter en fait, des enseignants de la conduite sur le marché des enseignants de la conduite, comme ça a pu être fait avec les VTC. Là, on vient vraiment auprès des enseignants de la conduite en leur proposant une solution qui leur permet de travailler où ils veulent, quand ils veulent, et à une rémunération qui est bien, bien supérieure. Donc là-dessus, il n'y a pas de... Il n'y a pas de sujet, selon nous.
Il n'y a pas de sujet, mais malgré tout, cette réforme va dans votre sens. Par exemple, avec la généralisation du système du candidat libre à l'examen pratique, hein, c'est censé désengorger les files d'attente et éviter les fameuses heures supplémentaires. Ça va dans le sens de ce que vous avez développé, parce que quand je disais que vous nous autonomisez, c'est totalement l'idée.
Je pense qu'il faut se mettre du côté du gouvernement. Le gouvernement, il ne vient pas favoriser un modèle plus qu'un autre. Il pense aux Français, il pense aux consommateurs. Qu'est-ce qui est le mieux, en fait, pour lui?
Est-ce que vous comprenez la grogne des auto-écoles? C'est vrai que ça peut faire peur quand on est installé depuis quelques années, qu'on a un système, qu'on a des charges. Parce que quand on regarde ce que gagnent des patrons d'auto-écoles, on ne peut pas dire que ce soit mirifique non plus. Est-ce que vous comprenez leurs craintes?
Moi, je comprends qu'on défende ses intérêts. Maintenant, les auto-écoles traditionnelles ont les mêmes cartes que nous dans la loi pour pouvoir s'adapter, pour pouvoir se moderniser. Il faut savoir que ce secteur n'a pas évolué depuis plus de 50 ans.
Alors, vous êtes arrivé, vous, sur ce marché en 2015 quand ça s'est libéralisé. Aujourd'hui, on a bien évidemment la crise des Gilets jaunes. On n'est que sur un projet de réforme pour le moment qui pourrait passer, je crois, au Sénat dans un premier temps au mois de mars et puis ensuite au mois de juin à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pensez qu'avec la crise des Gilets jaunes, le gouvernement pourrait avoir peur de ne pas ouvrir d'autres fonds de contestation? On voit que les auto-écoles se sont beaucoup mobilisées aujourd'hui et finalement abandonner ce projet de réforme.
C'est intéressant. Je vous invite à regarder le rapport de l'UFC Que Choisir qui a dit justement que réformer en fait le permis de conduire et favoriser notre solution, l'auto-école en ligne, en voiture Simone par exemple.
Ou ça, Ornicar ou autre, hein, voilà, vous êtes plusieurs sur ce marché.
Ou autre, tout à fait. Ça permettrait de libérer 365 millions d'euros de pouvoir d'achat pour les Français. Donc je pense que ça va, pour les gilets jaunes, droit dans le mille. Il faut quand même rappeler que le permis de conduire, il est trop cher en France, c'est trop compliqué de le passer. pour 85% des gens qui passent le permis. Il faut rappeler qu'ils ont entre 18 et 25 ans. C'est quand même la classe de la population qui a le moins d'argent en France, qui a besoin de mobilité et qui, pour beaucoup d'entre eux, le permis de conduire, c'est un diplôme. Et pour d'autres, ça permet d'accéder à l'emploi. Donc je pense que les Français sont tout à fait pour une réforme du permis de conduire.
Eh ben merci beaucoup, merci d'être passé par les studios d'Europe 1. Édouard Rudolph, qui est donc le cofondateur d'En Voiture Simone, qui était notre invité ce soir. On ne se retrouve pas exceptionnellement demain, mais soyez au rendez-vous puisqu'il y aura le match de Ligue des Champions entre Manchester United et Paris. On se retrouve donc mercredi 22h20.
On vous dit effectivement à mercredi. Merci beaucoup Emmanuel Duteil. Et dans un instant, on jette un œil sur les unes de vos quotidiens. Quelles sont les infos que nos confrères de la presse écrite ont choisi de mettre en avant? Et voici donc ce que vous découvrirez demain matin dans vos quotidiens. Gilets jaunes, la facture. 70 000 personnes au chômage partiel, nous dit le journal L'Opinion, qui a pu consulter des chiffres officiels. Le 4 février, près de 5 000 établissements avaient déposé une demande d'activité partielle liée aux conséquences de ce mouvement des Gilets jaunes, ce qui représente donc près de 70 000 salariés concernés. C'est 10 000 de plus que début janvier. Des demandes qui se concentrent sur l'île de la Réunion, mais aussi en Occitanie, dans le Grand Est et dans les Hauts-de-France. Les PME sont en première ligne et sans surprise, les principaux secteurs affectés sont le commerce, la construction, mais aussi les transports. Au total, pour le ministère du Travail, la facture avoisine les 40 millions d'euros, sans compter le coût des dégradations. Chaque samedi, on entendait tout à l'heure dans le journal l'appel d'Alain Juppé qui, comme de nombreux maires, demande au gouvernement d'agir d'urgence. Ces élus sont très inquiets devant les pertes enregistrées qui se chiffrent, selon eux, en millions d'euros. Ligue du LOL, les médias à l'heure des comptes, titre le journal Libération, qui rappelle que plusieurs membres d'un groupe de jeunes influenceurs se sont livrés à du harcèlement sur Internet il y a 10 ans, ciblant en particulier les femmes. Au moins 5 journalistes ont été suspendus, dont 2 journalistes de Libération, justement mis à pied à titre conservatoire. Le traitement honteux infligé à ces victimes par la Ligue du LOL, sous couvert d'humour, oblige à réfléchir au culte de l'invective et de l'insulte qui infeste les réseaux sociaux, écrit le journal. Dans la Haute-Marne, Christophe Bonnefoy, lui, nous parle du PSG qui joue demain, vous le savez, son 8e de finale de Ligue des Champions contre Manchester United. Le PSG est-il un grand club, s'interroge-t-il. À l'échelle de la Ligue 1, c'est incontestable, le fruit à la fois de sa puissance de feu et de la faiblesse relative des autres clubs. Résultat, une compétition dont on sait quasiment dès la première journée qu'elle en sera l'issue. Mais sur la scène européenne, les plaisirs espérés ne sont pas les mêmes. Bien au contraire, ils se transforment chaque année en un repas bien indigeste. Systématiquement, depuis plusieurs saisons, les huitièmes passent mal. Ils restent en travers de la gorge. Or, c'est justement sur la Ligue des Champions que les propriétaires du PSG ont tout misé ou presque, l'objectif ultime. Le PSG, donc, est-il un grand club dès lors qu'il est incapable de s'affirmer face au Real ou au Barça au moment fatidique? L'est-il quand chaque année, à la même époque, il voit se blesser ses stars, Neymar et Cavani cette fois-ci? Allez, on verra demain soir contre Manchester United si le Paris peut prétendre à être un grand d'Europe. Et on verra ça sur Europe 1, bien entendu, puisque vous l'avez compris, ce match sera à vivre en direct et en intégralité dès 20h.